BW. Droits et libertés.
Félix Tshisekedi vient de prendre la tête de l'Union africaine. L'occasion pour nous cette semaine d'aller jeter un œil sous le tapis pour voir où en sont les droits de l'homme en RDC. Et puis nous reviendrons sur une figure tutélaire de la démocratie allemande. Savez-vous qui était Friedrich Ebert ? Sandrine Blanchard au micro. Bonjour à tous. Le chef de l'État de République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, vient donc de prendre la présidence tournante de l'Union africaine. Nous avons largement parlé sur cette antenne des défis continentaux qu'il devra relever. Mais au sein même de son pays, la RDC, les problèmes sont légion, et notamment pour ce qui est des droits de l'homme. Récemment, le Haut Commissariat de l'ONU à Genève s'est inquiété d'une dégradation de la liberté de la presse et de la liberté d'expression dans un pays où elles étaient déjà loin d'être garanties. Et puis, dans plusieurs régions, des groupes armés sont toujours actifs et s'en prennent aux civils. C'est le cas notamment dans les deux Kivus, dans l'Est ou encore en Ituri. Dans la région de Djougou, par exemple, des groupes rebelles incendient des villages et s'attaquent aux civils. Le lieutenant Jules Ngongo est le porte-parole des FARDC en Ituri.
Le secteur opérationnel de l'Ituri mène les opérations depuis un certain temps contre les groupes armés qui sont encore hostiles au processus de paix initié par le commandant suprême.
Rogeline fait partie des villageois qui ont dû fuir ces violences.
Aujourd'hui, on est ici parce qu'on n'a nulle part où aller. Nos maisons ont été brûlées, on a tout perdu. On n'a rien eu le temps de prendre avec nous. On s'est enfui en courant avec les enfants. On n'a que les vêtements qu'on avait le jour de l'attaque. Et on est arrivé comme ça à Bounia.
Machozi Glorieuse est vice-présidente d'un groupe de réfugiés dans un camp d'accueil à Kigonze.
Le gouvernement nous écoutait, il mettrait fin à toute cette misère en Ituri. On nous permettrait de rentrer chez nous. C'est tout ce qu'on demande. Nos enfants souffrent, ils ne vont plus à l'école, ils souffrent de malnutrition parce que la nourriture que nous donne le PAM n'est pas variée et que les rations n'arrivent qu'une seule fois par mois.
Le gouverneur de la province, Jean Bamaniza, est bien conscient de ce qui ne va pas.
Les populations sont à l'attente de ce que l'État, les forces armées, la justice mettent les conditions de vie normales, bien que ce ne sache pas la complexité du problème. Le problème est très complexe. Et on n'a pas désarmé tout le monde. Il y a beaucoup d'armes qui ont circulé.
Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur le massacre de 46 personnes au mois de janvier à Djougou. L'ONU estime que 19,6 millions de personnes auront besoin d'aide alimentaire au premier semestre 2021 dans le monde, parmi lesquelles 5,2 millions de déplacés internes en RDC. C'est le chiffre le plus élevé au monde. Et pendant ce temps, la circulation des armes en provenance parfois du Soudan du Sud tout proche continue. Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur la DW. Cette année, Friedrich Ebert aurait fêté ses 150 ans. Friedrich Ebert, celui de la Fondation. Oui, un nom que tous les Allemands connaissent, ne serait-ce que parce que la Fondation, donc, mais aussi de nombreuses rues, des places ou des stations de métro portent son nom. Petit voyage dans l'histoire à la découverte de l'un des pères de la démocratie allemande. En 1918, l'Allemagne vient de perdre la guerre et doit opter pour une voie qui doit lui assurer la paix, la prospérité, une fois pensées les blessures de cette énorme boucherie qui a été la Première Guerre mondiale. L'empereur Guillaume II a été contraint à l'exil suite à une révolution en novembre qui avait commencé par un soulèvement de marins mécontents. Guillaume II a fui pour les Pays-Bas. Beaucoup d'Allemands ont faim à cette époque. Les soldats qui sont revenus du front sont souvent blessés, défigurés, amputés, toujours traumatisés. Ils cherchent leur place dans ce monde bouleversé. Voilà pour le tableau de fond, plutôt sombre, et c'est dans ce contexte que le fils d'un tailleur va influencer le cours politique de l'histoire allemande. Son nom, vous l'avez deviné, c'est Friedrich Ebert. Il est né en 1871 à Heidelberg, c'est dans le sud-ouest du pays. Il est le septième d'une lignée de 9 enfants. Jeune homme, il apprend à fabriquer des selles de cheval et il part même en compagnonnage pour parfaire son art. Mais au fond de lui, il rêve d'ascension sociale. Et en effet, il va parvenir à se hisser du statut d'artisan au poste prestigieux, s'il en est, de président du Parti social-démocrate, le SPD, et même président du Reich. Peter Boyle est historien, il est membre de la fondation Friedrich Ebert et il estime que le social-démocrate a été à l'époque l'homme de la situation.
Aujourd'hui, on considère avec raison Friedrich Ebert comme celui qui a ouvert la voie à la démocratie et qui a assumé cette responsabilité à un moment très complexe de l'histoire allemande.
Friedrich Ebert est un homme qui sait négocier. C'est aussi ce qui a permis son succès de la vie de Walter Mühlhausen. Il dirige le musée Friedrich Ebert à Heidelberg, sa ville natale, et il est l'auteur d'une biographie de l'homme politique.
C'est d'abord un homme de compromis, des multiples compromis. C'était totalement nouveau en politique à l'époque. Quand les partis ont commencé à assumer la responsabilité de former un gouvernement, c'est lui qui insistait toujours pour que l'on s'accorde, dans le sens du bien public, au service de la cause. Il s'en était fait une règle en tant que chef du SPD, de discuter en interne, mais aussi de donner une image unie à l'extérieur et de défendre le compromis.
Cette attitude du compromis est bien sûr en totale contradiction avec les positions de l'extrême gauche, qui est très forte à l'époque, ravigorée notamment par la révolution bolchevique de 1917 en Russie. Pour établir la démocratie, Friedrich Ebert coopère avec les élites en place, l'armée, la bureaucratie. Alors l'extrême gauche lui reproche de trahir le milieu prolétaire, les mouvements ouvriers, bref la classe sociale dont lui-même est issu. Les communistes, les socialistes et les spartakistes marxistes appellent à l'insurrection. On est à Berlin le 5 janvier 1919. Ils veulent éviter que ne soit instaurée une démocratie parlementaire, qu'ils considèrent comme un instrument de l'oppression du peuple par la bourgeoisie et qui, selon eux, n'est pas ce que souhaite la majorité des Allemands. Le pays est alors au bord de la guerre civile, à quelques jours seulement des premières élections démocratiques. Friedrich Ebert fait écraser l'insurrection des spartakistes au mois de janvier. Pendant une semaine, les rues sont le théâtre d'un véritable bain de sang, à Berlin notamment. Le gouvernement envoie des mercenaires, souvent d'anciens soldats du front et des volontaires, pour tuer l'ennemi communiste et même pratiquer la torture sur les militants. Parmi les victimes les plus célèbres de cette répression féroce, Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, les deux fondateurs du parti communiste allemand, le KPD. Ils sont tous les deux assassinés peu après le soulèvement de janvier 1919. Mais des ennemis, Friedrich Ebert en a aussi à l'extrême droite. Les mouvements fascistes naissants rejettent la République de Weimar, les réparations dont l'Allemagne doit s'acquitter conformément au traité de Versailles. Mais Friedrich Ebert restera au moins pour une chose dans l'histoire. Le 19 janvier 1919, des millions de femmes ont le droit de voter pour la première fois en Allemagne. À titre de comparaison, les Françaises n'obtiendront ce droit, le droit de vote, qu'en 1945, soit près de 30 ans plus tard. Friedrich Ebert accorde à ses concitoyens la liberté d'opinion et la liberté de la presse.
Le peuple allemand est libre, demeure libre et se gouvernera lui-même désormais. Cette liberté est la seule consolation qu'il reste au peuple allemand, la chose à laquelle se raccrocher après le bain de sang de la guerre et de la défaite pour nous reconstruire.
C'était l'extrait d'un discours de Friedrich Ebert à l'inauguration de l'Assemblée nationale le 6 janvier 1919. Cinq jours plus tard, il est élu président du Reich.
Pour lui, la démocratie doit créer les conditions matérielles et pratiques qui permettent à tout un chacun, indépendamment de son extraction sociale, de voir ses intérêts représentés et de pouvoir participer à la vie politique. L'accès à l'éducation comme condition de l'égalité des chances, voilà un principe particulièrement lié au nom de Friedrich Ebert.
Le 28 février 1925, Friedrich Ebert meurt. Il n'est âgé que de 54 ans. En 1933, un homme accède au pouvoir qui veut faire table rase de l'idéologie défendue par Friedrich Ebert. Son nom, Adolf Hitler. Aujourd'hui, 150 ans après la naissance de Friedrich Ebert, l'Allemagne est redevenue une démocratie solide. Pourtant, le discours public est en train de se radicaliser, de changer de ton. À l'extrême droite de l'échiquier politique, l'AfD s'est constituée, un parti qui teste régulièrement les limites de la démocratie, qui provoque en usant et en abusant de la liberté d'expression, ce qui rend l'historien Walter Mühlhausen plutôt pensif.
On a pu constater ces derniers temps à quel point la démocratie est fragile, elle n'est pas garantie pour l'éternité. Alors il faut que nous tous qui croyons en la démocratie, nous la défendions, aujourd'hui et à l'avenir. C'est la leçon à tirer de la République de Weimar, car si trop de gens se battent pour elle, la démocratie risque de disparaître dans les tréfonds de l'histoire.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Ralph Bosen pour les sons sur Friedrich Ebert. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet www.com/français dans la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.